France Culture.
Bienvenue à toutes et à tous, on reprend la route dès midi à 13h. Comme promis, je recevrai le musicien Cérone. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. La presse française en est largement fait l'écho les jours derniers. Cette grande biennale des arts islamiques qui se tient à Jeddah en Arabie Saoudite, en soulignant à la fois la qualité exceptionnelle des objets présentés et l'opération de soft power qu'elle représente. Mais non loin de là, dans les Émirats Arabes Unis, une autre biennale se déploie, la première dans l'espace public, et les enjeux sont grands. À Abu Dhabi, 89% des habitants sont des étrangers, près de 200 nationalités cohabitent, et l'art devient alors le ciment possible de toutes ces communautés. Kader Attia, Mircea Cantor, Sami Balogi ou encore Rimini Protocol, les artistes invités ont tous proposé une œuvre destinée à dialoguer avec les habitants.
Je suis Clémence Bergal, directrice de la Biennale de l'art dans l'espace public à Abu Dhabi.
C'est la première fois qu'une telle biennale a lieu à Abu Dhabi. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi c'est important que les artistes prennent possession de l'espace public ?
C'était pour nous et pour les artistes, mais également des architectes, l'opportunité vraiment d'explorer le concept de l'espace public à travers l'environnement, mais aussi l'urbanisme et surtout la communauté à Abu Dhabi, bien sûr.
C'est la première fois, c'est-à-dire que avant, les habitants d'Abu Dhabi n'avaient pas l'habitude de croiser des œuvres d'art. Là, on vient de faire un tour dans les rues d'Abu Dhabi. Il y a des œuvres un peu partout, dans plein de quartiers, des œuvres très différentes. Est-ce que c'était ça aussi l'objectif, que tout le monde puisse croiser une œuvre d'art sur son chemin ?
Exactement. L'objectif était de rendre accessible l'art pour tout le monde, dans tous les espaces, le plus d'espaces possible, mais surtout que les populations aient la possibilité d'avoir accès gratuitement à des œuvres d'art et d'explorer dans la fabrique urbaine de leur ville et dans leur rue, dans leur espace commun, ces œuvres-là et ces installations.
On parle de combien d'œuvres et qui sont les artistes sélectionnés, de quelle nationalité sont-ils ?
On parle d'à peu près une soixantaine d'installations avec une quarantaine de commandes. Et nous avons un peu moins de la moitié sont des artistes des Émirats ou basés aux Émirats. Et ensuite, nous avons des artistes de beaucoup de pays internationaux.
Comment se fait le choix des œuvres ? Est-ce qu'il y avait une thématique, par exemple, pour cette première biennale ?
Oui, en fait, la thématique était surtout de s'intégrer dans la fabrique urbaine de cette ville. Comme c'était une première, on est resté sur un thème assez, je vais dire, assez général. On s'est concentré sur le centre-ville. On voulait s'adresser à toutes les communautés, mais un aspect très important de cette biennale et un des objectifs les plus importants, c'était vraiment de donner la possibilité aux communautés de redécouvrir Abu Dhabi, redécouvrir ses rues, redécouvrir les parcs, la corniche. Et surtout, il y avait ce concept de devoir marcher entre les œuvres, entre ces installations et en même temps de redécouvrir cette ville.
Alors la biennale est ouverte en novembre, donc vous avez quand même déjà quelques mois de recul. Quelles sont les premières réactions des habitants d'Abu Dhabi ?
Les réactions sont quand même très positives. Les gens sont très contents surtout d'avoir des interventions artistiques dans leur quartier, chez eux. Ça leur permet aussi de pas forcément... Nous avons évidemment le Saadiyat Cultural District avec tous les musées. C'est concentré dans un quartier.
Là, dont le Louvre à Abu Dhabi.
Dont le Louvre à Abu Dhabi. Et évidemment, on essaye de s'étendre ailleurs. Et je pense que ce qui a été très apprécié, c'était le travail qu'on a fait avec les communautés. On a plusieurs œuvres, des commandes, notamment le tapis au souk des tapis, qui est un vrai travail que Christopher Benton a fait avec les communautés, ensemble, et a offert un espace pour ces communautés, pour qu'elles puissent en profiter, pour qu'elles puissent vivre, pour que cette œuvre vive dans ce quartier avec les communautés de ce quartier-là.
Oui, parce qu'il y a certaines œuvres qui sont interactives ou collaboratives. Par exemple, là, vous parliez de ce tapis-là. En fait, les gens peuvent s'asseoir, venir passer du temps ou écouter un concert.
Exactement. Et en plus, on essaye d'avoir un programme. En plus, notre programmation, en plus des œuvres qu'on a installées, on propose des concerts, des performances toutes les semaines, surtout évidemment le week-end. Mais on propose cela à côté de nos œuvres et en général lié au thème de l'œuvre et de la commande.
Et on peut l'avoir jusqu'à quand, cette biennale ?
Le 30 avril.
Merci beaucoup.
Merci.
Et parmi les invités, les artistes exposés dans la ville d'Abu Dhabi, on retrouve Daniel Buren.
Bah oui, le pape de l'In-Situ est aussi de la fête. On l'écoute nous parler de l'œuvre qu'il a dessinée spécialement pour l'occasion. Daniel Buren, bonjour.
Bonjour.
L'œuvre que vous avez réalisée pour la première biennale d'art dans l'espace public à Abu Dhabi se trouve dans une gare routière au style architectural très marqué. À l'intérieur, on retrouve des vitraux aux couleurs très franches également, qui changent totalement la perception de l'espace. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce lieu-là ?
D'abord, pas grand-chose, je veux dire. On m'a un peu poussé pour que tout était soi-disant ouvert. Comme toujours d'ailleurs dans des possibilités de travaux publics. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que les gens ont une idée derrière la tête. Et leur station, dont ils sont très fiers et qui était un peu décatie, ils m'ont dit, ben voilà, on aimerait beaucoup que ce soit là que ça se passe. Donc en fait, j'ai fait un projet, mais le projet est en deux temps. Donc ce que vous avez vu, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, qu'ils m'ont promis de réaliser, c'est l'ajout à cet ensemble de deux fontaines qui sont mises à l'opposé l'une de l'autre, étant donné la configuration de l'ensemble qui est hyper symétrique, avec un centre où les gens viennent prendre leur ticket, etc. Et ensuite, des sortes de grandes allées qui viennent l'une en face de l'autre, permettent l'arrêt des autobus en épi. Et ces allées sont constituées par une architecture assez intéressante d'une protection pour les gens, bien sûr, en cas de pluie, et d'une ouverture faite par une série d'arches qui soutiennent cet ensemble architectural où les gens attendent leur bus, ou même sortent du bus, puisque c'est le centre qui distribue tout le pays, en fait. Ils sont d'ailleurs très fiers de cette station, qui n'est pas tellement ancienne. Ça date des années de 89, si je me souviens bien. Donc, c'est une chose récente, mais pour eux, c'est presque un monument historique.
Oui, parce que la ville elle-même est très récente.
Ben voilà, exactement.
Vous parliez d'architecture, mais moi qui ai visité cette station de bus, ce qui frappe en entrant, c'est la lumière. C'est-à-dire que votre installation modifie complètement la perception de l'espace, aussi parce qu'elle modifie la lumière intérieure, dans le sens où ces vitraux colorés procurent une ambiance très différente. Et je voyais les gens, les habitués qui fréquentent cette station de bus, même assez étonnés de voir ces lumières rouges, vertes, à s'apposer comme ça sur les guichets pour acheter son ticket ou sur les chaises pour attendre. Est-ce que vous l'aviez préparer comme ça, cette œuvre-là, pour cette lumière-là aussi ?
Comme toujours, avant de faire une chose, j'ai vu les résultats, hein, mais les résultats sur place, évidemment, sont les seuls qui y vaillent. Le reste, ça me montre simplement qu'ils ont bien respecté ce que j'avais dessiné. Et c'est tout, je dirais. Donc, ce dont vous parlez, j'en suis plutôt heureux, parce qu'effectivement, quoi qu'on fasse, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pour transformer un espace. Donc, si ça le transforme et que des gens qui sont à l'intérieur sont plutôt heureux de ces transformations, je peux dire que je vais pas, moi, dire vous auriez dû trouver ça très moche. Maintenant, c'est sûr que la transformation peut aussi amener des désagréments à certains et des critiques, etc. Donc tout ça, c'est l'enjeu de ce que j'appelle, moi, les travaux in situ, parce que si dans un endroit éclairé avec principalement la lumière naturelle, qui est généralement très forte là-bas, comme vous le savez, on transforme tout ce qui permet de faire passer la lumière d'une façon colorée, il est évident que pour ceux qui connaissent la station, ça va les changer d'avant. Ça, c'est certain.
Juste une dernière question pour finir cet entretien. Daniel Buren, il y a quand même une différence. Quand on pense à Abu Dhabi, on pense au Louvre à Abu Dhabi, qui est une grande réussite. Ça fait 7 ans que ce musée a ouvert et il attire de plus en plus de monde. Mais là, ce que vous proposez, ce n'est pas dans un musée. Vous parlez d'œuvres in situ, c'est-à-dire qu'on est dans la ville et dans la vie des gens. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui vous intéresse dans votre travail artistique ?
C'est comme ça que j'ai commencé. C'est ce qui m'intéresse de toute façon, sans doute le plus. Mais je refuse pas de travailler dans un musée quand même. Si je parle depuis si longtemps de travail in situ, ça ne définit pas la place justement a priori. Elle n'est là que lorsqu'on la propose. Donc je me dois de pouvoir travailler dans un cabinet de toilette ou au Louvre. Ce sera pas le même travail et c'est pas la même façon de travailler et ça pose à chaque fois des problèmes très très précis. Là, la station centrale, évidemment, c'est pas le Louvre à Abu Dhabi, mais c'est aussi intéressant que de sans doute travailler. Enfin, j'ai même travaillé pour le Louvre à Abu Dhabi, mais les projets n'ont pas pu aboutir. Mais donc, c'est vrai que on peut pas comparer les deux espaces, hein, en tout cas.
Non, ça, c'est sûr. On est sur des espaces très différents. Bien, merci beaucoup, Daniel Buren, de nous avoir accordé cette interview. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Et merci Marie. Et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.